Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Alors nous avions déjà reçu Pierre Manuel, l'auteur, à la fois le biographe, on va dire le commentateur de l'œuvre de Viala, et aujourd'hui nous allons recevoir l'éditeur, celui qui a créé Méridiane, une maison d'édition qui est consacrée quand même, pour tout dire, essentiellement aux commentaires, au dialogue avec les œuvres d'art et en même temps à l'édition de catalogues.
Oui, alors au départ, c'était avant tout une édition de livres d'artistes, c'est-à-dire d'ouvrages en nombre limité, et puis avec soit des originaux, soit des modes d'impression de l'ordre de l'estampe, gravure, sérigraphie, voire lithographie, etc. Et puis, avec des artistes évidemment contemporains, sinon ça n'aurait pas de sens. Mmh. Et en fait, je me suis très vite tourné vers, j'ai voulu très vite que ce travail s'élargisse à la fois à des artistes qui n'étaient plus vivants. Donc on a fait notre collection sur le musée Fabre, que vous connaissez, mm-hmm. puisque vous m'aviez déjà invité là-dessus. Et d'autre part, effectivement, un travail de catalogue avec d'autres structures que forcément Méridiane. Donc il y a eu la Maison des Arts de Bâge, avec laquelle on avait fait par exemple un travail autour de Pierrette Bloch. Il y a le Passe-Muraille, avec lequel, on en parlera tout à l'heure, on fait le catalogue in situ. Il y a la ville de Montpellier et la salle Bagouet uniquement, hein, puisqu'en fait, moi je ne travaille pas, je n'ai pas de réseau de diffusion, distribution lointaine, donc je ne peux que et je ne veux éditer que des auteurs, je dirais, dont la surface de diffusion reste très locale.
Alors, il y avait eu aussi des... Je le rappelle parce que c'était bien intéressant et apparemment ça s'est interrompu. C'était les dialogues avec les artistes, la collection qui s'appelait Alma. Il y a eu deux numéros...
Oui, alors ça c'était mes écrits. Hein, qui effectivement c'était les entretiens d'Alma avec les écrits que j'avais pu faire ou les entretiens que j'avais fait sur avec les artistes présentés par la galerie Alma. Donc il y a eu effectivement
deux volumes.
Ouais.
Et ça se...
Ah mais peut-être que je vais publier les écrits, mais hors de la galerie, parce qu'il y a quand même, puisqu'on parlait tout à l'heure de mon travail d'auteur autour de Viala, mais autour d'autres artistes, il y a effectivement tout un ensemble d'autres textes que j'aimerais un jour publier. Mais disons, j'ai le temps.
Bon, disons en plus que la galerie Alma...
elle réouvre bientôt. Donc,
va réouvrir, donc voilà. Les choses seront peut-être relancées. Alors, on va venir sur un premier catalogue qui est lié à la salle Bagouet, que vous évoquiez à l'instant. C'est le 19e siècle, un âge d'or de la peinture montpelliéraine. C'est une initiative d'un commissaire d'exposition qui fait sa dernière expérience, c'est Nouma Mborsin, donc. Et vous avez, depuis le début de ces expositions régulières à Bagouet, édité les catalogues.
Oui, il y avait en gros, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y avait une exposition par an où il y avait effectivement publication d'un catalogue. Et ces expositions étaient surtout dans la volonté de Nouma Mborsin d'essayer de faire émerger ce qu'on peut appeler une sorte de mémoire de la peinture montpelliéraine et des environs immédiats de Montpellier, dont on peut penser que le musée, qui a évidemment en charge énormément d'autres œuvres de très grande qualité, dont on pouvait penser que le musée effectivement ne pouvait pas le porter complètement, et donc ces œuvres étaient pour une part dans des réserves. Et de façon ponctuelle, donc Nouma Mborsin s'était donné comme projet de les faire réapparaître. Donc il y avait eu effectivement, par exemple, le catalogue autour de Descossi, ou autour de Georges Dezeuse, d'André Blondel. Et là, donc, c'est un peu plus loin dans la mémoire. Hein, c'est effectivement une partie de ce 19e siècle montpelliérain, avec l'ambiguïté, d'une certaine manière, du statut des peintres qui sont là, puisque certains sont restés à Montpellier ou sont revenus à Montpellier pour des raisons diverses. Et d'autres ont quitté Montpellier pour s'installer à Paris, par exemple. Bon, on sait pour Cabanel, on le sait pour Bazille, bien sûr, et d'autres. Donc c'est effectivement un catalogue qui essaye de faire apparaître, de faire réapparaître le nom d'un certain nombre de personnages qui ont été très importants. Alors pour moi, je ne suis pas du tout le commissaire, donc je ne voudrais pas beaucoup, disons, je ne voudrais pas me substituer à Numa Bursin, mais de manière très extérieure, en tant qu'éditeur, ayant participé à la recherche documentaire, etc. Ce qui m'a paru plus étonnant et plus important, finalement, ce sont, je dirais presque, des figures. Et il y a, par exemple, la figure des conservateurs du musée. Le premier, par exemple, dont je n'avais strictement jamais entendu parler et qui est un personnage tout à fait passionnant, c'est Jean-Jacques Bestieux, alors, et qui a été le premier conservateur du musée Fabre, avant Fabre lui-même, et qui a obtenu...
Ah, je ne savais même pas qu'il y en avait eu un.
Voilà, et qui a obtenu du directoire qui avait complètement exclu Montpellier des œuvres nationales, qui est une sorte de correction qui soit faite, et qu'effectivement, Montpellier s'est retrouvé avec un certain nombre de pièces distribuées par l'État français un peu partout. Et ce Bestieux, qui était sans doute aussi un homme politique très engagé, puisqu'il était adjoint au maire de Montpellier, etc. Voilà, c'est des figures qui ont été essentielles dans ce domaine-là. Ensuite, il y a Ernest Michel aussi, qui a été un très grand conservateur, professeur à l'École des Beaux-Arts. Et donc, je pense que c'est les deux pôles qui m'ont frappé, c'est-à-dire ces peintres, au-delà de ce que on peut, disons, la manière dont on peut apprécier leur peinture. Bon, je n'ai pas une admiration sans borne pour leur travail. Je trouve qu'en tant que figure, justement, de Montpellier, et ce qu'ils ont pu y faire, les uns au musée, les autres à l'École des Beaux-Arts, ils ont été grands. Voilà, je le dirais comme ça.
Est-ce qu'on peut dire que c'était des sortes de petits maîtres ?
Oui, la notion de petit maître est une notion, comment dire, difficile à manier, sans compter qu'en plus, il faudrait évaluer les choses dans la diversité des œuvres, parce que même chez des petits maîtres, il peut y avoir de grands tableaux, comme il y a chez des grands maîtres, des petits tableaux. Donc, voilà, et puis il y a il y a des choses qui sont quand même aussi assez intermédiaires. Par exemple, un Bimard que je ne connaissais absolument pas. Je trouve, cette sorte d'éloge bizarre de Courbet, qui était son ami, qui reprend une gravure d'un certain Gilles, et on voit Courbet allumer sa pipe avec le ruban de sa Légion d'honneur. Je trouve que ça, en 1872, juste après le fait qu'il était enfermé, puis exilé, etc., ils avaient du courage, les artistes, dans la façon de montrer. Alors, il y a de la parodie, c'est vrai, mais en même temps, il y a quelque chose qui est dit qui est assez brutal, assez violent. Donc, effectivement, c'est peut-être pas des maîtres au sens où il y aurait une inventivité, une créativité. Mais d'une part, il y a un magnifique petit tableau de Lénard qui est là, que je trouve extraordinaire. Une sorte de douceur de l'air tout à fait étonnante. Il y a ce tableau de Bimard qui est d'une violence, je trouve, très très violent. Quand on voit à côté de ça tous ces portraits d'hommes respectables avec, justement, leur Légion d'honneur et tout le reste en premier plan, où ces prêtres, etc., tout ce côté de la vanité humaine. Et là, il y a justement des artistes qui prennent les choses, je dirais, complètement de biais, avec une certaine force. Et dans le fond, c'est ça qui compte.
Alors, écoutez, on ira voir et on va inciter nos auditeurs à aller voir cette exposition donc, qui a lieu... qui est dès à présent, puisque l'inauguration a été faite, donc le 19e siècle, un âge d'or de la peinture, Montpellier-Rennes, soyons précis. Alors on va en venir à ce qui fait, à mon avis, le plus original de votre travail d'éditeur, c'est le croisement d'œuvres plastiques et d'écrivains. J'ai là sous les yeux le premier, puisqu'il y a eu deux ouvrages récents, donc La couleur de l'air, un texte de Frédéric Jacques-Temple et avec une photographie de David Huguenin. Alors quelle est la genèse d'un livre d'artiste comme ça, où est-ce qu'on met en présence des gens qui ne se connaissent pas ou ils se connaissent déjà? C'est eux qui vous proposent le manuscrit? Est-ce que c'est vous qui mettez les gens en présence? Comment ça se passe?
Alors,
est-ce que tout est possible?
Oui, tout est possible et c'est très différent d'un livre sur l'autre. Alors, pour celui-là, par exemple, je connais David Huguenin depuis pas mal de temps, 3-4 ans. Il venait très régulièrement à la Galerie Elma et aux éditions Méridiane, là, sur notre mezzanine. On se rencontrait, on avait l'occasion de discuter. Je savais qu'il était photographe. Il m'avait déjà montré beaucoup de photos. Et puis, un jour, il me dit, bon, ben voilà, je viens d'éditer un petit ouvrage à un nombre très réduit d'exemplaires et pour une exposition qu'il faisait à l'époque à Bruxelles. Et il me dit, est-ce que ça t'intéresserait qu'on reprenne quelque chose de cet ordre-là? Je dis, pourquoi pas? Et regardons un petit peu ce que tu me proposes et comment les choses se font. Et donc lui avance dans sa réflexion, dans son travail. Il me montre un certain nombre de photos. Je lui dis, ça oui, ça m'intéresse. Ce sont ces photos autour de l'étang de Thau, intitulées « La couleur de l'air ». Je trouvais le titre assez joli, justement, assez juste pour un photographe. Et il me dit, je connais bien Frédéric Jacques-Temple et je vais lui demander un certain nombre de textes. Alors je dis, je suis d'autant plus content que je venais sortir un livre avec Frédéric Jacques-Temple et que j'ai une admiration aussi pour son travail d'écrivain et de poète. Donc j'étais très content de cette conjonction de choses. Et puis parlant de l'étang de Thau et de tout ce qui est proche de la Méditerranée, je me disais qu'effectivement la figure de Temple ici était absolument incontournable et que c'était une chance que cette conjonction se fasse. Voilà, donc c'est parti comme ça et peu de temps après je reçois une page de Frédéric Jacques-Temple avec une dizaine de haïkus. Alors je me dis, mais comment je vais faire une page? Ça fait pas un livre, on peut pas mettre ça. Bon, et puis j'ai tourné dans ma tête cette chose-là un certain temps. On a demandé à Frédéric Jacques-Temple d'allonger un tout petit peu son texte, etc. Il l'a fait volontiers, mais bon, il était déjà un peu fatigué l'été dernier, etc. Et donc on s'est retrouvé avec, je crois, 17 haïkus. Et là, c'était difficile d'aller plus loin dans la demande. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu tout d'un coup, je me suis souvenu évidemment de principe du méli-mélo dans les livres pour enfants ou dans ceux de Pérec. Et donc, du coup, on a travaillé avec mon graphiste sur le principe de ce découpage de chaque texte individuel. Et ça me paraissait d'autant plus intéressant qu'effectivement, il y avait cette photo en fond de livre et que chaque haïku vient légender d'une certaine manière cette photo pour un tiers, si on veut, ou pour deux tiers, ou la recouvrir totalement. Et donc, il y a un nombre, disons tout d'un coup, de conjonctions entre les différents textes qui devient très grand, et non seulement entre les textes, mais entre le texte et l'image. Voilà, et ça faisait un livre.
Alors,
et donc, ça s'est fait
on
comme
va
ça.
Essayer de, pour préciser les choses, on va essayer de donner une... Donc on a, comment dire, un support qui est en trois volets.
Oui.
Au milieu, quand on ouvre ces trois volets, au milieu, on a la photographie donc, de l'étang de Thau que vous signaliez, donc avec... alors, au début, d'ailleurs, je me suis dit, mais à cause de la végétation qu'il y a devant, c'est pas l'étang de Thau. Et puis, ce qui permet de distinguer l'étang de Thau, c'est qu'on voit au loin, avec une certaine, un côté un peu oriental, je trouve, on voit les parcs à huîtres qui émergent de l'eau et qui font le fond de la moitié à peu près de la photographie, le tout dans un ciel qui est clair, strié de stratus, ces nuages tout en longueur, un étang tout à fait paisible, et puis devant, un arbre coupé. Très intéressant, un arbre coupé. Et donc, on a de part et d'autre de cette photographie des pages qui sont elles-mêmes découpées en trois parties. Et chaque partie de ces pages comporte donc un haïku. Et on peut rabattre, donc... c'est parti sur la photographie, en masquant une partie de la photographie, évidemment, et en lisant l'un de ces haïkus. Alors, je peux vous en lire un comme ça pour vous donner une idée. Je monte, je descends, je monte, hippocampe dans mon sommeil. Alors c'est tout à fait le haïku, ça vraiment c'est dans la pure tradition. Et donc on peut jouer entre, avec l'image et un haïku, mais on peut aussi jouer entre les haïkus eux-mêmes. Et donc avoir trois haïkus qui se succèdent, ou on peut à la limite traverser la page en diagonale et donc lire trois haïkus qui se succèdent, mais d'une autre façon. Enfin, c'est une espèce de livre polysémique qui permet de faire son propre trajet, son propre parcours, son propre livre. En plus, c'est évolutif, il y a 10 000 façons probablement de combiner tout ça. Enfin, c'est un très beau, c'est un petit ouvrage, mais magnifique. La couleur de l'air, quand on voit la photographie, on la sent, cette couleur de l'air. Voilà, on ne va pas en dire plus, parce qu'il ne faut pas non plus... il faut aller au livre, il faut le manipuler, et donc en tirer la substantifique moelle, comme disait l'autre. Alors, autre ouvrage d'écrivain, c'était aussi un ouvrage d'écrivain précédent, donc le livre de Louis Mizon, qui est consacré à l'île de Pâques, l'île dont les yeux regardent le ciel. Magnifique titre quand même. Alors, il y a donc une carte qui situe un petit peu le s'il en était encore besoin, où ça se passe. Et puis, on a donc une alternance presque de dessins et de textes. Alors, les dessins, me disiez-vous ?
Alors, ces dessins, ce sont des dessins assez étranges, qu'on appelle des rongo-rongo. Donc, ça, c'est dans la langue de l'île de Pâques. Et ces dessins sont des sortes de graphes qui sont dessinés dans des tablettes de bois, dont on ne sait pas exactement ni le sens, ni la datation. Il est possible qu'elle soit antérieure à l'arrivée des missionnaires. Il est possible que ce soit au moment de l'arrivée des missionnaires que les premiers essais, disons, d'imposer aux populations qui ne connaissaient pas l'écriture, leur imposer d'une certaine manière l'apprentissage du geste d'écrire et de dessiner. On ne sait pas trop. Toujours est-il, moi, ce qui m'intéressait, c'est quelque chose de très différent. Je connaissais bien Louis Mizon, on avait déjà fait un livre sur Valparaiso, et il m'avait montré ses dessins. Et en général, puisqu'on en parlait tout à l'heure à propos de David Huguenin, donc je travaille avec des artistes contemporains, et là, tout d'un coup, je me suis dit, c'est quand même extrêmement intéressant de travailler avec des artistes anonymes. Mmh. On ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas de quel moment ils datent. Et en plus, c'est un dessin qui finalement a ceci d'assez étonnant, c'est qu'on pourrait presque l'imaginer le long du Verdanson comme étant du street art aujourd'hui. Les personnages qui y sont dessinés ont une sorte de grande simplicité dans la façon dont ils sont mis en scène. On est dans l'abstrait, on est dans le figuratif, on est dans des personnages qui portent des formes d'hybridation entre l'homme, l'animal, etc. Donc tout cela me fascinait. Et donc, on est parti de la volonté d'utiliser les rongo-rongo. Et c'est là que Louis m'a dit, moi, je connais bien l'île de Pâques. Il avait écrit des ouvrages plus historiques et sociologiques sur l'île de Pâques. Et du coup, il est parti du nom de chacune des criques plus importantes où il y a des hôtels sacrés. Et chaque hôtel, dans le langage de l'île de Pâques, a généré un poème. C'est-à-dire qu'il a inspiré en quelque sorte un poème lié aussi à l'histoire des hommes de l'île de Pâques. Par exemple, ce poème concernant le fils du roi qui a été exilé brutalement avec toute la famille royale pour aller ramasser du guano au Pérou. Et évidemment, qui en est mort, et voilà. Et donc, à l'époque, on a détruit, les Occidentaux ont détruit toute la population, 9%, 9, 9 dixièmes de la population de l'île de Pâques en les transplantant dans une île du Pérou pour ramasser du guano. Et comme tout le monde, il y a eu une sorte de mouvement mondial contre cette déportation forcée, ils ont ramené les survivants avec les maladies transmises par le guano, ils les ont ramenés dans l'île.
Ce qui fait d'achever.
Ce qui fait qu'en réalité, après cette déportation massive, le nombre de populations proprement pascouanes est devenu infime. Et du coup aussi, toutes les traditions se sont perdues. C'est-à-dire que plus personne n'était capable de savoir ce qu'il y avait 50 ans avant. Mmh. Alors que l'on sait que dans toutes ces cultures, il y a une mémoire orale essentielle. Enfin, voilà.
Alors, ce qui est amusant, c'est que chaque texte est suivi de sa position géographique avec la latitude et la longitude.
Exactement.
Et de même que l'île, bien sûr.
Parce qu'en fait, il s'agit bien de la part de Louis, d'inscrire ses poèmes dans quelque chose qui est très réel, qui est effectivement déjà le nom de la crique. La poésie, là, elle n'est pas une sorte d'irréalité. Elle s'inscrit très précisément géographiquement dans des lieux dont les noms sont repris, dont on peut effectivement retrouver la position. Mais en même temps, c'est d'autant plus important qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que la seule chose qui nous reste au fond, c'est ce nom et cette position qui marque effectivement la trace d'une présence humaine spécifique qui était celle effectivement des cultes pascouans anciens, ne sait rien et dont... plus personne ne peut raconter quoi que ce soit, ou quasiment, parce que les récits que l'on a pu garder par Cook, par d'autres, ce qu'ils ont su des habitants de l'île de Pâques sont quand même extrêmement courts, extrêmement brefs. Il y a eu assez peu d'études qui ont été faites. Cook est resté, peut-être un jour pour chercher de l'eau, et puis... c'est à peu près tout. Donc ils ont localisé l'île et puis ils sont rentrés pour aller chercher de l'eau. Ils ont vu qu'elle était habitée, puis ils sont repartis.
Le titre Matakiterangi, c'est la traduction qu'on a dessous, l'île dont les yeux regardent le ciel.
Exactement.
D'accord. Eh bien écoutez, c'est un bien beau livre. Alors, il nous reste quelques minutes. Je ne résiste pas au plaisir, en m'excusant de ne pas être un lecteur professionnel, mais... quand même, pour avoir une idée de ces textes qui sont absolument fulgurants, au fond de la grotte, il y a la vie, la voix, le rêve, comme une minuscule rayure au milieu d'un miroir d'obsidienne. Elle n'est ni ta vie, ni ta voix, ni ton rêve, mais des grappes de raisins sauvages pour nous enivrer de lumière. Écoutez, c'est magnifique. Je suis... admiratif. Louis Mizon est d'origine chilienne.
Il vit à Paris et je veux juste dire, mais sans appuyer là-dessus, mais c'est pour lui très important, quand on connaît l'histoire du Chili moderne, donc il a quitté le Chili à la suite du renversement de Allende par le fasciste Pinochet. Il vient d'être décoré d'une des plus hautes distinctions concernant la culture au Chili, et c'est la première fois d'une façon ouverte que le gouvernement chilien, renoue un peu le fil, en tout cas vis-à-vis de Louis Smithson, je ne parle pas vis-à-vis d'autres, le fil d'une histoire qui avait été quand même violemment interrompue. Et du coup, lui qui écrivait au départ en France en espagnol, puis qui s'est mis à écrire en français, il peut maintenant commencer à espérer voir son œuvre effectivement circuler par des éditeurs au Chili. Et ce livre, puisque c'est quand même parmi la plupart des poèmes de Louis Smithson, c'est quand même le seul qui, de façon... Bon, il y avait celui sur Valparaiso, mais qui est un peu différent, porte sur quelque chose auquel ils sont extrêmement attachés, l'île de Pâques, permet à accélérer d'une certaine manière ce processus de reconnaissance. Et donc j'en suis aussi extrêmement heureux pour Louis, parce qu'effectivement, on ne répare pas l'histoire, mais c'est les injustices, mais c'est juste quelque chose comme ça puisse se produire. Je suis très content d'en avoir été l'intermédiaire.
L'éducateur aussi. L'intermédiaire. Quel âge a-t-il aujourd'hui?
Et je dirais qu'il doit avoir 70 ans, quelque chose comme ça.
Donc il était temps de se préoccuper de lui rendre un peu justice.
Oui, en France, curieusement, il a eu des prix importants. Il a eu le prix Jean Malrieu, il y a eu d'autres prix. Mais pas au Chili, c'est ça. C'est comment dire, je ne dis pas que c'est normal, c'est habituel en tout cas. Hein, c'est-à-dire que les gens qui se sont exilés et qui ont choisi en quelque sorte de développer leur travail dans un autre pays sont un peu considérés comme ayant effectivement une autre patrie dorénavant, alors que dans leur propre tête, les choses ne sont pas si évidentes. Hein, et je pense qu'effectivement, Louis Smithson, qui revient régulièrement au Chili, devait quand même souffrir de ne pas être publié en langue espagnole.
Je le suppose, comme disait Danton, on n'emporte pas son pays à la semelle de ses souliers.
Oui.
Voilà, merci beaucoup Pierre-Manuel
de
nous avoir promené cette jolie balade à travers les livres et les actes graphiques, les traces, toutes sortes de belles formes qui nous inspirent et stimulent notre imagination. Merci beaucoup. Donc je rappelle l'île dont les yeux regardent le ciel, chez Méridiane, donc de Louis Smithson, et la couleur de l'air de Frédéric Jacques Temple et David
Huguenin,
le photographe, donc chez Méridien aussi. On trouve tout ça, bien sûr, dans les meilleures librairies.
Alors, le livre de Louis Smithson, oui, puisqu'il est en diffusion en librairie. Les livres d'artistes, non, il faut les commander à Méridien.
Voilà,
donc, www.meridien.fr.
Voilà. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Quant à nos auditeurs, je leur dis à la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.